France Musique.
Merci à vous Christian Merlin et à la semaine prochaine. C'est non seulement le plus ancien festival français, mais sans doute le plus fameux, le plus populaire. Les Corégies d'Orange, depuis 1869, ont changé maintes fois de visage, mais restent un moment privilégié pour les amateurs. Qui n'a pas entendu la clameur montée des 8300 gosiers du public du théâtre antique un soir d'été, ne sait pas ce que c'est que l'enthousiasme à l'opéra. Notre invité du mois d'août a dirigé les Corégies pendant 35 ans. Spectacle merveilleux, échec retentissant, artiste sublime ou cabots insupportables, autant dire qu'il a tout vu. Mémoire d'opéra, Raymond Dufaux, 3e, La folie Corégie.
Thank you.
Le fameux et irrésistible duo de Don Carlos et de Giuseppe Verdi, tel qu'il résonnait en 1984 dans le théâtre antique d'Orange. Bonjour Raymond Dufaux.
Bonjour.
Troisième épisode de la série que nous vous consacrons tout ce mois d'août autour de votre vie à l'opéra, autour des corrigés d'Orange. Ce sera l'épisode d'aujourd'hui. Je rappelle que les précédents, on avait parlé de votre vie, de votre enfance, et puis la semaine dernière de l'opéra d'Avignon. Avant de venir à ce qu'ont été les corrigés d'Orange pendant 35 ans, pour vous, deux mots peut-être sur le Don Carlos qu'on vient d'entendre en 84, qui était quand même un peu légendaire. Hein.
Assez légendaire, oui. C'est vrai que c'est la première fois que l'ouvrage était donné. Et j'avais eu la chance de pouvoir réunir une distribution extraordinaire à l'époque, parce que c'était quelques-uns des plus grands chanteurs, avec Montserrat Caballé, Grace Bumbray, qui était une fantastique ébolie. Donc une distribution d'exception qu'avait dirigé Thomas Fulton, qui était un jeune chef américain, qui est malheureusement très rapidement décédé, qui avait des potentialités magnifiques, et une mise en scène très moderne pour l'époque de Jean-Claude Auvray, mais qui était superbe dans une magnifique scénographie de Jean-Paul Chambaz, qui avait suscité quelques controverses, ce qui arrive souvent au niveau de la mise en scène, mais ça avait été un formidable succès, ce Don Carlo. À l'époque, d'ailleurs, on ne donnait qu'une représentation par opéra. Oui, oui. Les corrigies, il faut se souvenir qu'elles ont été créées en 1869, donc cette année, elles viennent de fêter d'ailleurs leur 150e anniversaire, et non pas la 150e édition, comme il a été annoncé, parce qu'il y a un certain nombre d'années, notamment les années de guerre où, évidemment, la manifestation n'a pas eu lieu. Et pendant des décennies, les corrigies étaient un peu, en quelque sorte, la résidence d'été de la Comédie française. Bien que le premier spectacle qui ait été donné aux corrigies en 1869 ait été un opéra qui était un certain Joseph d'un certain Méhul.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'après, donc, quand Jean Villard, là on saute pas mal d'années, mais quand Jean Villard a pris la direction du Festival d'Avignon et a apporté ce qu'il a apporté au théâtre dramatique, il a été très difficile aux corrigés d'Orange de maintenir le théâtre qui était leur raison d'être. D'ailleurs, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Villard, avant de se décider pour la cour d'honneur du Palais des Papes, avait hésité entre le théâtre antique d'Orange, d'ailleurs, et la cour d'honneur. Puis il avait fait le choix d'Avignon. Et donc là, pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 1971, les corrigés sont un peu cherchés. Et puis c'est en 1971 que le maire d'Orange de l'époque, Jacques Bérard, et le ministre de la Culture d'alors, qui était Jacques Duhamel, qui a eu un mandat relativement court, mais qui avait été un excellent ministre de la Culture, ont conjointement décidé de redéfinir les corrigies en tant que festival d'opéra et de se consacrer exclusivement à l'opéra et aux grands oratorios et à une programmation éventuellement musicale en complémentarité des corrigies. Donc la co-direction avait été confiée à l'époque à Jacques Bourgeois et Jean Darnel, qui ont été épaulés par une directrice administrative, Marie-Claude Valène, qui avait été ensuite, quelques années plus tard, nommée directrice du théâtre des Champs-Élysées, d'ailleurs.
Vous êtes nommé en 80, c'est tandem Jacques Bourgeois, Jean Darnel, c'est très très beau spectacle.
Magnifique
coûtant spectacle. Un peu cher, je crois.
Certains historiques comme le Parsifal ou le Tristan, dirigé par Carl Böhm, avec Birgit Nilsson, avec Vickers, la Norma de légende aussi, avec Caballé, Vickers, dans un Mistral du Diable, d'ailleurs. Vickers, d'ailleurs, ne voulait pas chanter, c'est Montserrat qui l'avait poussé à chanter en disant le public est là, on doit de chanter quelles que soient les circonstances. Donc oui, ils avaient fait des spectacles superbes. Le problème, c'est que les équilibres financiers étaient un peu plus inquiétants. Pour Parsifal, par exemple, je sais que dans le montage des budgets, ils avaient confondu les marques, puisque c'était l'Opéra de Munich qui était venu avec les francs à l'époque, ce qui faisait même d'une différence de 1 à 3. Donc à la sortie, c'était un peu... Donc quand deux adjoints au maire de la ville d'Orange étaient venus me trouver en 80, puisque j'ai commencé en 82, pour savoir si je voulais bien prendre la direction des corrigés, je dois vous dire que j'ai beaucoup hésité, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années seulement que je m'occupais d'Avignon. J'étais encore évidemment jeune et je me suis vraiment posé la question si j'aurais la maturité, le poids suffisant pour m'occuper d'un tel festival, surtout comme on le rappelait que Bourgeois et Darnel avaient fait des spectacles d'une qualité exceptionnelle qui reste maintenant aujourd'hui dans l'histoire des corrigés. Et c'est vrai que j'avais demandé quelques semaines de réflexion. J'ai pesé le pour et le contre. Puis finalement, j'ai dit oui. La première année était un peu difficile, je dois
le
dire.
Le premier spectacle, pour le coup, vous l'avez vu, La Bronca, je crois.
La Bronca. Alors La Bronca, dû au spectacle lui-même, parce que j'avais pris presque par raison et par sécurité Margarita Wallmann pour faire la mise en scène de La Force du Destin, dont on savait quand même la fidélité à la grande tradition, avec le Don Carlo qu'elle avait fait à Paris, le Simon Boccanegra. Et malheureusement, le spectacle n'était pas inintéressant en soi, et elle avait superbement utilisé le lieu, mieux que ce que aucun metteur en scène ne l'avait fait jusque-là, mais elle avait transposé la Forza, ce qui n'était pas du tout habituel encore au début des années 80, pendant la guerre civile d'Espagne, et ça avait suscité une sérieuse bronca de la part du public. Je pense aussi, de manière un peu rétroactive, une bronca à laquelle n'avaient pas été étrangères mes prédécesseurs, notamment au niveau de la presse nationale.
Ah oui.
Oui, oui.
Quel est ce petit freluquet qui arrive et qui prend notre place?
Voilà, exactement, oui, parce qu'ils étaient très liés à Radio France. On avait un partenariat avec Radio France qui a perduré d'ailleurs fort heureusement pendant toutes ces décennies. On faisait à l'époque aussi des récitals à la Cour Saint-Louis, qui est à quelques encablures du théâtre antique d'Orange. Et cette année-là, entre autres, il y avait un récital de Teresa Berganza qui avait une magnifique robe rose. Et l'un des critiques parisiens qui suivait l'éco-régie a dit ben, même la couleur de la robe de Berganza épouse celle du nouveau directeur d'éco-régie. Donc vous voyez un peu l'ambiance dans laquelle mes débuts se sont si heureusement qu'après les choses se sont quand même stabilisées.
Finale d'Electra de Richard Strauss en 1991 à Orange au Théâtre Antique pour l'éco-régie de cette année-là. Il y avait Léonie Rizanek, Gwyneth Jones, Marek Janowski qui dirigeait le Philharmonique de Radio France. Soirée absolument incandescente, on l'entend évidemment aux applaudissements et puis aux cris que présentent le public.
Incandescente, oui, grâce à cette distribution que vous vous rappelez, Jones et Rizanek avaient été absolument extraordinaires avec Elisabeth Connell aussi, ouais. Et puis Simon Estes et James King, et puis la direction absolument remarquable de Janowski à la tête du Philharmonique. C'est vrai que le Philharmonique, Janowski, après Chung, plus récemment Miko Frank, j'ai eu toujours un immense plaisir à travailler avec cet orchestre qui est d'une qualité magnifique et qui travaille toujours aussi dans un état d'esprit remarquable, ce qui est précieux aussi dans des soirées festivalières qui sont parfois compliquées à organiser.
Grand spectacle, grande distribution, mais public
fréquentation limitée. Correcte, mais on dira pas plus sur une seule représentation. Et heureusement que par derrière, il y avait deux représentations d'Aïda. Ouais. Qui évidemment ont rempli et qui ont permis d'équilibrer comme il fallait les comptes, oui.
C'est surprenant quand même, parce que ça l'opéra
incroyable. Oui, mais c'est, malheureusement, c'est la frilosité du public vis-à-vis des œuvres qu'ils connaissent moins, même si ce sont deux œuvres emblématiques quand même, d'un répertoire un peu plus contemporain. Mais c'est vrai que c'est, il faut être extrêmement vigilant dans un lieu comme Orange. C'est vrai, je sais qu'on m'a souvent reproché d'afficher régulièrement les mêmes titres, mais au fil des années, on était passé à deux représentations par production, voire trois par deux fois sur Carmen, une fois avec Alania, une autre fois avec Kaufman. Mais c'est vrai que si dès qu'on sort des sentiers battus, si on sort des 10-12 titres du top des opéras les plus populaires, il est évident que la fréquentation est beaucoup plus aléatoire. Il ne faut jamais oublier qu'on a, c'est un lieu immense, qui fait 8300 places. 2-3 représentations, c'est 16, voire 24000 places qu'il faut quand même vendre. C'est vrai qu'en un an, là, les subventions ont doublé par rapport à ce dont je pouvais bénéficier, ce qui donne un peu plus de confort quand même dans la construction d'une programmation.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Un autre grand spectacle, c'était presque 10 ans après Raymond Dufau, des Contes d'Hoffmann, dont tout le monde se souvient, avec entre autres Nathalie Dessay. Nathalie Dessay dans les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach en 2000 au Corégie d'Orange sous la direction de Michel Plasson, la mise en scène de Jérôme Savary qui était tellement impressionnant, spectaculaire, drôle, ironique, enfin plein de choses.
Exactement, oui, c'est un spectacle de vraiment très festif, très ludique, formidablement mis en scène par Savary, qu'on peut aimer ou ne pas aimer au niveau de la direction d'acteur, etc. C'est un grand débat, mais qui est un homme de spectacle avant tout, qui sait créer des images, des situations et tout, et notamment on vient entendre Nathalie Dessé, qui avait été absolument extraordinaire dans Olympia, là, au milieu de ces grandes poupées, là, au milieu desquelles elle évoluait, pataugeant dans la pièce d'eau que Savary avait installée en bord de scène, en plus avec une distribution formidable, avec José Van Damme qui faisait les rôles des diables, des quatre diables. Il y avait Marcus Haddock, qui était peut-être un peu moins connu, mais qui avait été un très bon Hoffman. C'était la première Giulietta aussi de Beatrice Oria Monzone. L'Antonia de Leontina Vadouva, donc il y avait une distribution vraiment magnifique et superbement dirigée par Michel Plasson, qui a été l'un des grands habitués des chorégies avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse.
Ah oui, ils sont revenus très souvent. Hein.
Il est peut-être, je sais pas, il a dû diriger 12 ou 15 fois au moins à Orange, et on sait tout ce qu'il a apporté à l'interprétation de la musique française, notamment. Il n'a pas dirigé que de la musique française à Orange, parce qu'il a fait pas mal d'italien aussi.
Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne mise en scène à Orange? C'est comme très particulier, Raymond Dufour.
Très c'est particulier. La scène est très, aussi, très large. Je sais, parce que tous les reproches qu'on peut faire à quelqu'un, qu'on m'a dit, oui, j'avais de grands metteurs en scène d'Orange, qui n'étaient pas très sympathiques d'ailleurs pour les metteurs en scène qui étaient invités, qui faisaient, en principe et d'une manière assez régulière, très bien leur travail. Mais c'est vrai que c'est un contexte extrêmement particulier et qu'il y a des metteurs en scène plus connus, peut-être plus avant-gardistes par rapport aux mises en scène qui étaient faites, que j'avais essayé d'inviter aux corrigies et qui m'ont dit, très simplement, on serait évidemment ravis de venir, mais dans les conditions de travail à Orange, dans un laps de temps extrêmement limité, on préfère vous dire non, parce qu'on ne saurait pas faire. Je pense par exemple à Patrice Courrier et Moshe Leiser que j'avais contacté, je pense à Joseph Losey que j'avais également contacté, et qui m'ont dit on ne saurait pas du tout faire, parce que nous, monter un opéra, toute répétition d'orchestre comprise en 15 jours.
Ah oui, c'est ça.
On ne serait pas prêt.
Vous avez en fait l'opéra, une disponibilité du théâtre antique pendant un peu plus de 40 jours, c'est ça
pour la 40 jours, ça a été un peu élargi maintenant, mais c'était 40-42 jours, c'est-à-dire deux productions d'opéra montées deux fois, plus les concerts, avec les reports en cas de mauvais temps au lendemain, ce qui veut dire que il y avait, bon, on répétait quelques jours dans une salle de répétition avant d'être sur scène, mais pendant qu'on montait le décor, mais en gros, avant l'arrivée de l'orchestre et les tutti orchestres, le metteur en scène dispose à peu près de 5 jours sur le plateau, ce qui est invraisemblablement court. En plus, c'est un lieu qui a 65 mètres d'ouverture, où on ne peut pas monter un spectacle, on le monte dans un théâtre fermé, avec des impératifs, donc c'est extrêmement compliqué, et je comprends que, on parlait lors de notre dernier entretien du fait que Mireille Lafreny, par exemple, sur le plan vocal, avait toujours refusé de venir à Orange parce qu'elle ne souhaitait pas chanter en plein air. Je pense que c'est un peu la même démarche des metteurs en scène qui ne se sentent pas de travailler dans ce genre de conditions, ce que je peux tout à fait accepter et comprendre d'ailleurs.
Et puis en termes de conditions de travail, enfin, le délire de la situation festivalière qui est un peu décuplée à Orange, hein, parce que les personnels, je crois, à l'année sont 4, 5, 6 personnes, un truc comme ça, pas plus.
L'équipe permanente, c'est 5 personnes à peu près, et entre 800 et 1000 personnes entre les orchestres.
C'est
les chœurs, la technique qui travaille.
Qui arrive tout d'un coup pendant quelques jours.
Oui, c'est une organisation extrêmement particulière.
Un peu sport.
Extrêmement particulière.
Faut pas être cardiaque à Orange quand on est directeur.
Non, il vaut mieux être. Par exemple, je me souviens de la Mireille qu'on avait donnée dans la mise en scène de Fortune et sous la direction d'Altinoglu, où on avait été malheureusement une fois pour des raisons techniques, parce que le tableau de basse tension avait sauté à l'ouverture de la pré-générale, donc on a été obligé de supprimer la pré-générale. Supprimer la générale parce qu'il avait plus.
Ah oui.
Donc, c'est-à-dire, on était passé des scènes orchestre à la première sans aucune répétition, avec 5 jours d'arrêt, alors qu'on n'avait pas vu du tout le spectacle dans l'enchaînement, puis dans les scènes orchestre, les chefs sont censés s'arrêter, ce qui est tout à fait normal. Et finalement, ça s'était bien passé, parce qu'Altinoglu, je dois dire, avait formidablement tenu le spectacle. Mais ce sont évidemment les inconvénients qui peuvent être très importants dans un lieu de plein air.
Le Dies Irae du Requiem de Giuseppe Verdi, c'était en 2001. Myung-Woon Chung qui dirigeait le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France. C'était au Corégie d'Orange, parce que oui, on va rappeler, disais-je, que il n'y a pas seulement de l'opéra Orange, mais régulièrement des concerts aussi.
Des concerts, des oratorios, Requiem de Verdi, souvent le Requiem de Mozart, que Chung a dirigé par deux fois d'ailleurs, la 9e de Beethoven, Carmina Burana, les grands oratorios, et puis pas mal de concerts lyriques et de concerts symphoniques aussi, avec où les plus grandes voix ou certains grands instrumentistes, même voir des récitals, puisqu'on avait fait un récital avec Lang Lang, qui avait formidablement marché, parce que c'est vrai que c'est un lieu qui justifie les grandes forces artistiques, avec de grands orchestres, un chœur important, une figuration et tout, de par sa dimension. Mais c'est un peu ce que Villard aussi disait pour la cour du Palais des Papes, ce sont des lieux extrêmement forts pour des personnes parfois seules. Qui ont, je sais que Paul Puot, qui avait succédé à Villard, avait invité le mime Marceau dans la cour d'honneur pour une série de représentations, ce qui était étonnant, en plus sans texte ni rien, et ça avait été formidable. Et ça a été la même chose quand on a fait un récital avec Lang Lang, oui, entendu par quelques 6000 spectateurs. Il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, lui tout seul devant son piano dans cet immense lieu. Et c'est un peu le côté paradoxal de ce très grand lieu où il y a quand même un contact et une proximité entre le spectateur et l'interprète assez exceptionnel.
Jour de colère, nous dit le Dies Irae du Requiem de Verdi, de tous les Requiem, bien évidemment. Ça a été quoi les pires jours pour vous à Orange, Raymond Dufaux, les plus mauvais souvenirs?
On parlait de mes débuts dans la force du destin, qui n'avait pas été, je dois dire, la chose la plus agréable. Il y a eu un certain Hérodiade, je crois que c'était de mémoire en 87, qui devait être chanté par Montserrat Caballé et José Carreras, malheureusement, qui avait dû annuler très peu de temps avant le spectacle, puisqu'il avait contracté une leucémie dont il s'est heureusement remis relativement rapidement, et Caballé, qui était vraiment très intimement lié à lui, avait décidé d'annuler dans la foulée parce qu'elle ne voulait pas chanter si ça n'était pas lui. Donc très compliqué, un joueur français qui ne faisait pas régulièrement partie du répertoire, que ne connaissait aucun grand nom du chant international. Donc j'ai demandé à deux chanteurs français pourtant très solides, Françoise Garner, qui était l'une des grandes sopranies de l'époque, et Gilbert Pic, qui avait d'ailleurs pris, je ne sais pas si c'était une très bonne idée, un nom allemand d'ailleurs pour chanté, il s'était appelé Max Egert tout d'un coup. Je ne sais pas s'il pensait que ça serait mieux, plus porteur que de garder un nom français. Et je dois dire, jamais senti une telle hostilité de la part des spectateurs quand le spectacle a commencé. Et on sentait très bien que si jamais il y avait eu le moindre problème ou le moindre bémol dans le spectacle pouvait basculer dans un très mauvais côté. Garner, qui avait une très grande force en elle avait un trac incroyable. Et l'ensemble de la distribution, mais tout particulièrement elle, a réussi à renverser le public au fil du spectacle, et qui s'est finalement terminé par un triomphe. Et c'est ça d'ailleurs que j'ai toujours trouvé très sympathique à Orange, parce que le public juge toujours très objectivement des spectacles. Bon, il y a évidemment des fans d'opéra, des passionnés du genre, mais il y a aussi un public qui ne connaît pas forcément intimement le monde de l'opéra. Et je pense que c'est une réaction spontanée, ce qui est normal quand on s'adresse à plus de 8000 personnes. Et c'est ce qui fait aussi la réalité de ce festival. Ouais. Alors, il y a eu d'autres moments aussi, quand j'avais monté un Macbeth que j'avais confié à Petrica Ionescu, qui est un formidable décorateur, qui est également un excellent metteur en scène, mais qui a des idées à la minute. Et comme je lui avais expliqué, je lui ai dit, tu sais, Petrica, dans un lieu comme Orange, il faut arriver absolument préparé au niveau mise en scène, parce qu'on n'a pas le temps d'improviser. Chaque jour, il inventait quelque chose de plus ou moins positif. Et bon, comme je connaissais quand même bien la manière de faire fonctionner un spectacle dans le théâtre, sans vouloir m'immiscer dans ce qui doit être la liberté de création d'un artiste, j'avais essayé de lui démontrer qu'il y avait deux ou trois choses dans sa mise en scène qui ne marcheraient pas, qui ne fonctionnaient pas, parce que ça ne marchait pas par rapport au lieu. J'avais bavardé avec lui pendant presque 3 heures à l'issue de la répétition générale. J'avais pensé d'ailleurs que j'avais réussi à le convaincre. Pas du tout. Il a tout gardé et il s'est essuyé une bronca comme je l'ai rarement vu, ce qui m'empêchait d'ailleurs de l'inviter dans le futur, ce qui était dommage parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent.
Ouais. Vous parlez du public. Il est impressionnant, ce public-là. Vous dites, quand ça se met à applaudir tout d'un coup, ouais, parce que le public est enthousiaste,
oui,
c'est
très
merveilleux.
Spontané.
Très spontané, oui. Mais enfin, quand il se met à huer, mettons,
ah,
ça,
oui,
quand
ça
on sent ça monter dans les corrigés, dans le théâtre.
Les huées s'entendent beaucoup plus que les applaudissements.
En plus, oui.
Un autre mauvais souvenir, ça me gêne un peu de parler au micro de France Musique, parce que c'est un peu lié à Radio France, c'est quand on avait eu une 9e symphonie, je crois que c'était en 87, jouée par l'Orchestre National avec Rudolf Barschais. C'était une époque où je crois que les relations entre Rudolf Barschais, qui était un très bon chef, et le National étaient quelque peu difficiles. Et c'est vrai que, bon, les concerts, on les répète deux jours dans le lieu et le concert. On a eu malheureusement deux jours de très mauvais temps, donc on n'avait pu faire ni le premier jour de répétition, ni la générale dans le lieu. On l'avait fait dans l'église d'Orange, dans un autre lieu, dans une salle. Le jour du concert, il faisait un temps absolument magnifique. Il y avait 7000 personnes qui sont arrivées à Orange pour écouter la 9e, et le responsable du National m'a dit à 7h30 du soir, ce soir on ne joue pas parce que l'orchestre ne veut pas jouer, ne se sent pas prêt pour faire une 9e. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'une 9e, ça aurait été la Turangalila Symphonie, ou qu'on dise qu'on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas assez répété. La 9e, j'ai dit, le public ne pourra pas comprendre. J'ai dit, moi je suis prêt à faire une annonce au public en disant les conditions, les très mauvaises conditions dans lesquelles on avait dû répéter, au contraire que l'orchestre se fait fort de jouer par respect du public et tout, il n'y a rien eu à faire. La décision a été maintenue, donc les gens sont arrivés, évidemment on les a empêchés d'entrer puisque le concert était annulé. Je vous laisse imaginer la suite. Des quarts de CRS à la fin du spectacle,
ah oui.
3000 personnes qui harcelaient le bureau d'éco-régie où s'était réfugié la personne dont je parlais, le président directeur général de Radio France de l'époque, Roland Faure, qui, je dois dire, n'amenait pas large. Et ça a été assez épique, ce que je peux comprendre.
Les gens ne comprenaient pas en fait l'annulation.
Comprenaient pas une telle annulation.
Ça peut être violent parfois.
Ça n'a pas été un bon souvenir. Ouais. Ça.
Yeah.
Aïda de Giuseppe Verdi, bien évidemment, dirigée ici par Michel Plasson, Orchestre National de Lyon. C'était en 2006 au Corégie d'Orange avec plein de monde, entre autres Roberto Alagna dans la distribution. Raymond Dufaux, Aïda, on pourrait la faire quasiment tous les ans à Orange, ça marcherait?
On ne fait pas tous les ans comme on le fait à Vérone, mais c'est vrai que ça fait partie des ouvrages les plus populaires, les plus grands publics, comme le sont quelques titres de Verdi, pas beaucoup, Nabucco, plus récemment d'ailleurs, Traviata, Rigoletto. Après, ça devient un peu plus difficile, même quand on aborde des choses comme Don Carlo.
Mais c'est de l'opéra grand spectacle, donc fatalement ça va dans ce lieu.
Oui, mais Aïda, est-ce que c'est vraiment un opéra grand spectacle? Ouais. Parce que je pense qu'à part la scène du temple à la limite et le triomphe, tout le reste,
c'est
énormément de scènes d'intimité à deux ou trois personnages.
Donc c'est autre chose qui joue en fait dans un lieu comme
donc
ça.
Donc c'est au metteur en scène et au décorateur, au scénographe d'avoir l'intelligence aussi de savoir intégrer des scènes intimistes dans un grand lieu. Ouais. Mais on parlait d'Electra tout à l'heure aussi, qui est quand même un ouvrage scéniquement intimiste, je ne parle pas vocalement, et qui marche formidablement parce qu'il y a une telle force dans la musique aussi qui compte beaucoup dans des lieux qui sont extrêmement forts architecturalement aussi.
Le chœur, enfin les chœurs, parce qu'il y en a souvent beaucoup qui viennent, ils se trouvent à combien les chorés sur scène? 150,
ça dépend,
200 personnes?
100, 120, 130 personnes, oui, qui sont, que Vétour essaie de privilégier sur le plan régional avec la réunion des chœurs des opéras de Nice, de Toulon, de Marseille, d'Avignon, de Montpellier, mais c'est vrai que je pense que c'est important aussi d'essayer de valoriser les forces artistiques régionales et de les faire travailler ensemble. Puis ça fait de belles rencontres entre des chœurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui réunis font une masse artistique très intéressante. Je vais parfois travailler avec le chœur de Radio France sur le plan scénique, mais c'est un peu plus compliqué parce que, quelle que soit leur qualité musicale, vocale et artistique, sont des gens qui n'ont pas l'habitude de quand même de faire beaucoup de scènes. Donc, ils ont plus de mal à intégrer une mise en scène, à s'intégrer dans un spectacle scénique. Alors, on l'avait fait quelques fois. On l'avait fait sur le Vaisseau Fantôme, où ça s'était plutôt bien passé, malgré les réactions de certaines dames, parce que Nicolas Joël, qui avait fait la mise en scène, a émis une pièce d'eau, et donc à la scène des fileuses au début du deuxième acte, elles avaient à chanter leur ensemble sur un petit praticable qui devait faire quand même 2-3 mètres de large. Je vous rassure, je rassure les auditeurs, dans la pièce d'eau, il devait y avoir 2 cm d'eau. Ouais. Et elles étaient venues me voir en me disant, mais dans ces conditions, on ne peut pas chanter parce qu'il nous faut prise de risque, une indemnité pour prise de risque. J'ai dit, mais je pense que vous plaisantez, parce que la noyade quand même est très improbable.
Ça peut arriver, ce genre de choses aussi.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut sortir les sous tout le temps pour
une pièce d'eau. Non, j'avais dit que ça ne serait pas le cas.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Vous évoquiez juste à l'instant, Raymond Dufaux, Richard Wagner, on ne va pas en écouter aujourd'hui dans cette émission, mais vous en avez monté beaucoup à Orange, au Corégie, avec le Grand Ring, avec Marek Janowski, à Tannhauser, enfin plein d'autres choses.
Vraiment à l'insistance de Marek Janowski, parce que j'avais beaucoup hésité, et je pense que j'aurais dû continuer à hésiter, parce que je pense que ça a été la fausse bonne idée, parce que c'est vrai que c'était formidable de pouvoir monter le Ring à Orange, mais comme on le rappelait tout à l'heure, de par les conditions de travail, les impératifs de mettre des jours off entre général, première, les reports en cas de mauvais temps au lendemain. Le public qui vient entendre un Ring, il faut qu'il puisse entendre le Ring au moins tous les 3 jours, c'est-à-dire en 10-12 jours, faire l'intégralité du Ring. Ce qui, de par le contexte d'Orange, nous avait obligés à ne donner chacun des 4 opéras que chaque samedi. Et finalement, globalement, à part la Valkyrie, bon, ce qui est assez normal, ça n'avait pas très bien marché sur le plan fréquentation, notamment pour Siegfried et le Crépuscule des Dieux, qu'on avait été obligé d'ailleurs de décaler de 24 heures parce qu'on n'était pas prêt. Mais c'est vrai que par contre, sur le plan musical avec Janowski et le Philharmonique, il y avait une superbe distribution. C'est nonobstant un très beau souvenir. Le Vaisseau Fantôme, que j'ai fait à 2 reprises, une fois en 85-86, je crois, chanté par Lisbeth Balzleff, Simon Estes et Mathis Alminen, qui était à la distribution à l'époque du Festival de Bayreuth, qui avait été tous les 3 magnifiques. C'était la première mise en scène de Nicolas Joël à Orange. Superbe spectacle dans une scénographie très forte de Bernard Arnould. Et c'était la dernière collaboration qu'on avait eu avec TF1, parce que jusque-là, au niveau télévision, c'était TF1 qui filmait les spectacles d'Orange, et en 87, TF1 avait été privatisé. Et quand les nouveaux responsables ont regardé l'audience d'un opéra, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette audience et tout. Et donc, plus de spectacles en direct d'éco-régistes, à partir de là, qu'est née une collaboration après qui s'est révélée extrêmement pérenne avec France Télévisions, France 2 et France 3, qui ont régulièrement retransmis soit au moins un opéra, sinon les deux opéras chaque été, plus des concerts.
Et qui pouvaient prendre quelques risques. Mais ça veut dire quand même que Wagner à Orange, ça a du mal à marcher en termes du public.
Oui, on avait fait un Tristan aussi en version de concert avec Marek Jadowski, encore avec le Philharmonique. D'ailleurs, ça aussi, tout à l'heure, vous me demandiez quels étaient mes souvenirs qui étaient les moins bons ou les mauvais souvenirs de ces trois décennies que j'ai passées au Corégie. Celui-là, un peu plus particulier, parce qu'il faisait un vent du diable, je dois dire, qui devait souffler à 100 à l'heure. C'est vrai que c'était dans des conditions extrêmement compliquées sur le plan météorologique. Et au premier entracte, le directeur de production des Corégies vient, parce que je me tiens toujours dans un coin de la salle, prêt à pouvoir sortir, me dit « Venez vite, on a un problème avec M. Jadowski ». Donc je bondis en coulisses, je vois Jadowski qui avait quitté son habit en tenue civile. Et j'ai dit « Mais maestro, où allez-vous ? Je m'en vais ». Parce qu'il est hors de question que je puisse continuer à diriger dans de telles conditions et tout. J'ai dit, maestro, je suis désolé, il y a 5000 personnes dans la salle, on joue, le Mistral n'est pas une condition d'annulation, la seule condition d'annulation c'est la pluie, on ne peut pas ne pas continuer. Non, il est hors de question que je continue, c'est comme ça, je m'en vais. Ben, je lui dis, je serai obligé d'en tirer toutes les conséquences. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit, je pense que vous avez très bien compris. Il est reparti s'habiller dans sa loge et on a fini le concert.
Les conséquences, c'est évidemment un procès derrière.
Exactement.
Ah ouais, il a bien compris le message.
Je pense.
Thank you.
entend ces extraits, je me demande parfois si ce que je préfère, c'est pas encore le public à la fin. Ce bravo-là me fait toujours des frissons incroyables. C'était Lucia, plutôt Patrizia Cioffi, en Lucia de la mère Moore de Gaetano Donizetti en 2006 à Orange, sous la direction de Marco Guidarini. C'était la première fois qu'elle y chantait, Raymond Dufaux, et elle n'avait pas voulu venir à Orange. C'est vous qui l'avez un peu tiré par le col,
parce qu'on avait déjà travaillé à Avignon, donc on avait commencé à bien se connaître, et j'ai essayé de la persuader de venir à Orange, et elle ne voulait pas, parce qu'elle me disait, je n'ai pas du tout la plus belle voix du monde, parce que j'étais jamais contente de ce qu'elle faisait, j'ai une petite voix qui ne passera jamais à Orange. J'ai dit, Patricia, tu as une technique exceptionnelle, en plus au-delà de la musicalité et de la sensibilité rare qu'elle a dans le timbre. J'ai rarement rencontré ça, peut-être à part Raymond de la Yao, dont on parlera peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Et finalement, j'ai réussi à la convaincre, et c'est vrai que chaque fois qu'elle est venue, elle a fait des triomphes absolus, et la voix a été magnifiquement projetée dans la salle. Parce que ce qu'il faut remarquer par rapport à un lieu comme le Théâtre Antique d'Orange, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de grandes voix, de ce qu'on appelle un peu parfois vulgairement des grosses voix, qui ne passent pas forcément mieux que des voix beaucoup plus petites, beaucoup plus ténues, mais qui sont extrêmement bien projetées, qui sont basées sur un style, une musicalité. On parle de Patricia. J'ai plusieurs fois également travaillé avec Barbara Hendricks, dont on ne peut pas dire que ça n'a jamais été une grande voix, ce qu'elle savait pertinemment, mais la voix est toujours remarquablement passée à Orange, qu'elle allait chanter la Gilda de Rigoletto avant que je n'arrive, avec Alfredo Kraus et Renato Brusson. C'était une affiche qui n'était pas mal non plus. Oui. Et puis, moi, je l'ai eu dans Pamina, dans Zauberflöte. Elle a fait également la Lieu de Turandot, ce qui n'est pas évident, parce que Turandot, quand même, c'est Puccini, est très orchestré. Et il n'y a jamais eu de problème de passage de voix, ce qui veut dire que l'acoustique dans ce lieu est assez miraculeuse. D'ailleurs, il y a des chanteurs, et notamment Montserrat Caballé, qui connaissaient parfaitement l'acoustique du lieu, les endroits où il fallait être pour être...
Ah oui.
Parce qu'il y a un lieu qui est un peu à côté court, au pied des colonnes, dans l'angle, où on dirait, quand l'interprète est là, on dirait absolument, tellement la voix est projetée dans la salle, qu'il est sonorisé. Et Montserrat, qui était très roublard dans ces conditions-là, elle s'évadait un peu de la mise en scène, et elle savait très bien que pour chanter les choses les plus importantes, elle devait être dans cet angle-là.
Ah oui, d'accord, allez savoir là.
Oui, notamment dans le Don Carlo dont on parlait tout à l'heure, le magnifique Don Carlo, elle s'était un peu éloignée de la mise en scène pour aller chanter l'air là où il fallait qu'elle soit pour qu'il soit bien projeté dans la salle.
C'est des gens pas comme nous, les chanteurs, les chanteuses en général, hein, Raymond Dufaux. Comment on traite avec ces animaux bizarres? Est-ce qu'il faut les traiter comme des gens comme les autres, les éviter?
Oui, on essaie de les traiter comme... je pense qu'il faut ne pas oublier que quand ils viennent chanter dans des lieux comme Orange, qui est un grand lieu de plein air, avec des risques quand même à la clé, et à les conditions météorologiques, ça n'est jamais facile, c'est parfois très humide, il fait parfois très froid, avec, on parlait du Mistral tout à l'heure, donc ce sont des conditions pas forcément évidentes. Les répétitions sont extrêmement courtes, donc denses et rapprochées, donc fatigantes. Elles ont toujours lieu tard le soir, donc ce qui est évidemment un problème. Donc il faut tenir compte de l'ensemble de ces paramètres, de la sensibilité que peut avoir un artiste. À partir de là, je pense aussi qu'il faut ne jamais oublier que c'est un métier d'extrême solitude, parce que quand on est chanteur, alors c'est vrai qu'on a entendu pas mal de triomphes à l'issue des airs qu'on a pu écouter depuis le début de cette émission. Mais une fois qu'on est sorti de scène, après avoir été couvert d'acclamations, on se retrouve seul entre les quatre murs d'une chambre ou d'un studio ou d'un appartement, ce qui n'est pas facile à vivre psychologiquement. Il faut être assez fort. Donc je pense qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ces problématiques pour travailler avec les artistes. Mais d'une manière générale, à part quelques spécimens parfois un peu difficiles, je pense que les choses globalement se passent très bien.
Vous donnerez les noms des spécimens les plus difficiles?
Oh, parfois eux-mêmes ou parfois les gens qui les entourent.
C'est souvent ça, en fait.
Encore pire.
Ah oui, c'est ça. Vaut mieux avoir un artiste seul.
Je me souviens quand on a eu Pavarotti en 90 qui était venu en concert. Lui, je pense qu'il n'était pour rien, mais il y avait toute une équipe qui l'entourait. Il y avait une fiche technique invraisemblable et absolument ridicule, dont il n'a même pas tenu compte après. Et je trouve ça quelque peu aberrant. Je veux dire, il était logé à Beaumanière, au Beau, qui est une magnifique lieu. Et le patron de Beaumanière, que je connaissais bien, m'a dit, j'ai quand même accueilli dans ma carrière la reine Elisabeth de Belgique, la reine Elisabeth d'Angleterre, le Shah d'Iran à l'époque, etc. Il m'a dit, je n'ai jamais eu les mêmes problèmes que pour recevoir Monsieur Pavarotti, dont l'équipe souhaitait changer le rideau de la chambre, les ceci, ah, les dessus de lit, etc. Pour finir, d'ailleurs, il n'a jamais été couché à Beaumanière, il est allé ailleurs. Comme il avait des difficultés à marcher, on lui avait installé une loge sur la scène, ce qui visuellement, d'ailleurs, pour le public, n'était pas forcément très réjouissant, donc derrière l'orchestre, mais quand même, ils se préparaient dans une loge, dans les loges habituelles. Ils avaient pris une golfette pour l'amener, une voiture de golf pour l'amener de sa loge intérieure jusqu'à la loge sur scène. Le chauffeur de la golfette s'est trouvé, il a mis la marche arrière, il s'est embronché dans la palissade, enfin des choses. Et puis, il y a des choses invraisemblables. Ils avaient mis un tapis rouge au sortir de la loge pour qu'il aille en bord de scène, et le pupitre du chef était quand même décalé, et c'était Pavarotti qui était au centre et le chef était à côté de lui.
C'était lui le centre du spectacle.
Oui, en dehors de ça, il avait évidemment magnifiquement chanté. Et il avait, quand il a chanté Nessun Dorma, c'était à tomber par terre.
Le fameux Nessun Dorma de Turandot, c'était Richard Bonenge qui dirigeait et c'était l'incomparable Luciano Pavarotti qu'on entendait ici chanter. Nous étions aujourd'hui avec Maud Nourry, Antoine Courtin et Bernard Laniel. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le quatrième et dernier épisode de notre mémoire d'opéra consacré à Raymond Dufau. Ce sera Orange et après. Il est midi sur France Musique. Voici Nathalie Moller, une heure pour danser.
À réécouter sur francemusique.fr.